de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour l'édition mercredi le 8 avril 2020, vous êtes avec moi Audrey et nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel Apprendre indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir et bienvenue à tous. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Et maintenant, je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Le cas de Corona augmente, Erdogan est critiqué pour avoir rejeté le confinement de la Turquie. Le confinement en ville de Wuhan est fini officiellement. Le ministère des Finances a canalisé 3,3 billions roupias vers l'Agence nationale de gestion des catastrophes pour gérer le COVID-19. Encourager l'industrie pour faire face à COVID-19, le ministère de l'Industrie réaffecte le budget. L'Organisation mondiale de la santé déclare l'Asie du Sud-Est avoir besoin de 1,9 million d'infirmières et de sages-femmes. Jakarta applique des restrictions sociales à grande échelle. Selon la Chambre des représentants, la police nationale priorise des étapes persuasives. Le jogging en journée est interdit à Paris car la France resserre les règles de confinement. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le cas de Corona augmente, Erdogan est critiqué pour avoir rejeté le confinement de la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour contrôler la propagation du coronavirus, mais son refus de mettre en œuvre un confinement total a suscité les critiques d'un certain nombre de partis. Parmi les différentes étapes décisives qui ont été mises en œuvre en Turquie sont l'interdiction des réunions publiques, les restrictions au voyage interurbain et l'obligation de porter des masques. Tout le monde doit vraiment rester à la maison. Cela doit être rendu obligatoire. Il a été dit par un médecin anonyme cité par l'agence de presse AFP mercredi 8 avril 2020 lors du traitement des patients COVID-19 dans un hôpital d'Istanbul. Mais avec l'augmentation continue du nombre de cas de coronavirus, le gouvernement Erdogan était de plus en plus exhorté à mettre en œuvre un confinement total comme en Italie ou en France. Les partis d'opposition et le président de l'Union turque des médecins, Sinan Adıyaman, aux médias turcs ont également exhorté le gouvernement à prendre des mesures plus décisives pour interdire les gens de quitter la maison. Le confinement en ville de Wuhan est fini officiellement. L'état du confinement en ville de Wuhan en Chine a officiellement pris fin le 8 avril 2020. La ville dans la capitale de la province de Hubei, qui compte 11 millions d'habitants, a également commencé à se rétablir après l'épidémie du COVID-19. Cité d'Antara, un certain nombre de médias de la Chine a pris des photos des joies de la population de Wuhan, en particulier chez les enfants, mercredi matin. Les agents de sécurité ont ouvert le blocus qui a été installé au milieu de la route pendant 76 jours à partir du 23 janvier 2020. De même, les résidents qui ont fait la queue à l'entrée du centre commercial de la 8e plus grande ville économique de Chine, car elle a dû mesurer la température corporelle par les agents de sécurité. Jusqu'au mardi soir, 7 avril, à Wuhan, il ne restait que 181 patients positifs de COVID-19. La Chine n'a pas enregistré le taux de mortalité dû au coronavirus mardi 7 avril. Pour la première fois depuis janvier, la Commission nationale de la santé a signalé 32 cas confirmés. Tous les cas confirmés mardi étaient des cas importés. Le ministère des Finances a canalisé 3,3 billions roupias vers l'Agence nationale de gestion des catastrophes pour gérer le COVID-19. Le directeur général du budget du ministère des Finances, Ascolani, a déclaré qu'il avait canalisé des fonds de 3,3 billions roupias vers l'Agence nationale de gestion des catastrophes afin de faire face à la nouvelle épidémie de COVID-19. Le fonds faisait partie du budget fourni par le gouvernement pour un montant de 75 billions roupias à travers de la réglementation gouvernementale remplaçant la loi numéro 1 de 2020. Cela a été dit à Ascolani lors d'une conférence de presse en ligne à Jakarta mercredi. Ascolani a déclaré que les fonds ont été utilisés par l'Agence nationale de gestion des catastrophes pour répondre aux besoins du secteur de la santé, comme la préparation des infrastructures hospitalières, la réalisation des dispositifs médicaux, les ressources humaines et l'anticipation des besoins suivants. Ascolani a souligné que l'Agence nationale de gestion des catastrophes continuera à être accompagnée par l'Agence de surveillance des finances et du développement et la Commission d'éradication de la corruption comme une forme de supervision dans l'utilisation du budget, si bien qu'il ne se produit pas les choses qui peuvent entraver le processus de traitement du COVID-19. Encourager l'industrie pour faire face à COVID-19, le ministère de l'Industrie réaffecte le budget. Le ministère de l'Industrie a réaffecté un budget 2020 de 113,15 milliards roupias pour encourager la productivité des hommes d'affaires nationaux qui sont confrontés à une pandémie de COVID-19. Sur la réallocation budgétaire totale jusqu'à 81%, soit 92 milliards roupias, seront affectés au secteur des petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, dans sa déclaration reçue mardi à Jakarta. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie lors d'une réunion de travail virtuelle avec la commission 6 du Parlement indonésien à Jakarta, lundi 6 avril 2020. Selon le ministre de l'Industrie, la réaffectation budgétaire préparée par son ministère a été maximisée, bien que la valeur ne soit pas trop élevée, car le budget du ministère de l'Industrie dans le budget de l'État 2020 n'est que de 2,9 billions de roupies. Par conséquent, le ministre Agus espère que les législateurs, en particulier la commission 6 du Parlement indonésien, pourront soutenir le plan de réaffectation budgétaire. L'Organisation mondiale de la santé déclare l'Asie du Sud-Est avoir besoin de 1,9 million d'infirmières et de sages-femmes. L'Organisation mondiale de la santé OMS déclare que les pays de la région de l'Asie du Sud-Est devaient redoubler d'efforts pour renforcer et élargir le nombre d'infirmières et de sages-femmes à 1,9 million de personnes afin de réaliser une vision de la santé pour tous d'ici 2030. Selon le directeur régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, le Dr Poonam Ketrapal Singh, les infirmières et les sages-femmes sont le centre, le service de santé de qualité pour tout le monde, pour prévenir la maladie, améliorer la santé pendant la vie, prendre soin des mères, des nouveau-nés et des enfants, pour fournir des vaccinations vitales, des conseils de santé et prendre soin des personnes âgées. Cela a été dit par Singh à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de santé, comme transmise mardi dans une déclaration écrite du Bureau régional de l'OMS en Asie du Sud-Est. Le thème de la Journée mondiale de la santé qui marque la fondation de l'OMS est de soutenir et de renforcer les sages-femmes et le personnel infirmier. Jakarta applique des restrictions sociales à grande échelle. Selon la Chambre des représentants, la police nationale priorise des étapes persuasives. Le président de la commission 3 de la Chambre des représentants indonésienne, Herman Heiri, à Jakarta, a demandé mercredi aux policiers qui ont servi sur le terrain dans la mise en œuvre des politiques du gouvernement provincial de Jakarta qui impose des restrictions sociales à grande échelle, de donner la priorité aux mesures persuasives et humanistes. Il a estimé que le principe professionnel moderne et de confiance de la police doit être maintenu, mais la police nationale doit également montrer sa fermeté comme une preuve réelle de la présence de l'État. Il a demandé aux dirigeants de la police de bien contrôler les niveaux opérationnels des subordonnés sur le terrain. Auparavant, le ministre de la Santé a approuvé la demande du gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, d'appliquer le statut de restriction sociale à grande échelle. Après que les patients COVID-19 positifs à Jakarta aient presque atteint 1500, le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, commencera à adopter les restrictions sociales à grande échelle vendredi 10 avril. Le jogging en journée est interdit à Paris car la France resserre les règles de confinement. Une interdiction de l'entraînement physique à l'extérieur dans la capitale française a été imposée car de nombreuses villes et territoires ont commencé à resserrer leurs actions pour arrêter la propagation de COVID-19 qui se poursuit après 3 semaines de confinement national. Cette interdiction est entrée en vigueur à Paris mercredi 8 avril 2020 de 10h à 19h. Cette interdiction est imposée de suivre les ordres du bureau du maire et du poste de police émis la veille. Cette démarche a été franchie après la circulation d'images le week-end dernier des Parisiens qui profitent de la météo printanière pour marcher et courir dans les rues. Cela a attiré les critiques de nombreux partis, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo. Selon Anne Hidalgo, ce règlement ne vise pas à interdire le sport, mais à réduire le nombre de personnes ne pressant en même temps que les résidents qui font leurs courses et travail. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie avec moi Audrey et je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Les obligations mondiales indonésiennes entrent dans l'histoire ». Chers amis, lorsque le monde a été menacé d'une récession économique en raison de l'épidémie de COVID-19, l'Indonésie a réussi à écrire l'histoire de la vente des obligations mondiales qui ont été divisées en trois étapes. De plus, avec une période de remboursement de 50 ans, l'une des phases de paiement est la plus longue de l'histoire des titres de créances indonésiens ou des obligations mondiales. Les obligations mondiales sont des obligations internationales ou des obligations souveraines émises par un pays en devises étrangères et négociées à l'étranger. Contrairement aux dettes officielles, les obligations mondiales ne sont pas aussi contraignantes que les prêts officiels où l'allocation de leurs utilisations a été déterminée. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le gouvernement indonésien avait émis des obligations mondiales totalisant 4,3 milliards de dollars américains et que la première tranche d'émission avait été libérée lundi soir, le 6 avril 2020. Elle a affirmé, selon le plan, que les fonds des titres de créances seraient utilisés pour gérer et rétablir la propagation de COVID-19. Sri Mulyani a déclaré 7 avril que l'émission d'obligations mondiales par l'Indonésie était actuellement la plus importante et devenait la première obligation mondiale en Asie qui a été émise avec succès depuis la pandémie en février 2020. Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Peri Warjio, a déclaré que le succès de l'émission d'obligations mondiales d'État reflète la confiance du marché en Indonésie dans un contexte d'incertitude économique mondiale en raison de l'impact du virus corona. Tandis que les observateurs financiers se sont félicités des efforts déployés par la stabilité financière et des devises du pays. L'un des observateurs financiers, Fikri Sepermana, a déclaré que l'émission d'instruments de titres de créances qui a été assez bien accueillie par le marché a fourni un espace supplémentaire pour le budget de l'État 2020, ainsi que la stabilité de roupia et des liquidités pour le marché financier national. L'émission d'obligations mondiales indonésiennes sur le marché international qui a gagné le grand intérêt de la communauté internationale indique que l'Indonésie est un des potentiels qui n'est pas sous-estimé parce que le marché ne sera pas intéressé ou n'achètera pas de titres de créances indonésiens si les conditions en Indonésie ne le garantissent pas. Plutôt, en janvier 2020, l'Indonésie avait également émis des obligations en dollars et en euros, qui ont également été accueillies favorablement par le marché. En réfléchissant à la réponse positive du monde aux performances économiques de l'Indonésie sous la forme d'achat d'obligations mondiales, les parties prenantes et les politiques en Indonésie devraient continuer à améliorer leur performance avec une orientation vers la construction d'une économie populiste qui se révèle plus forte face à la récession, comme cela a été expérimenté dans plusieurs crises en Indonésie. Serge Littard, c'est tout le commentaire.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 avril 1946, la journée de la force aérienne de l'armée nationale d'Indonésie. La force aérienne de l'armée nationale d'Indonésie, ou TNI-AU, est l'une des branches des forces armées chargées des opérations de défense de la République d'Indonésie. La force aérienne a d'abord été une partie de l'armée anciennement connue sous le nom de l'Armée populaire de sécurité, ou TKR Bureau d'aviation. TNI-AU a été formée le 9 avril 1946 avec la création de l'armée de la République d'Indonésie, conformément à la disposition du gouvernement numéro 6 l'année 1946. Dans l'histoire, le 9 avril était célébré comme le jour de la ratification de la force aérienne de l'armée de la République d'Indonésie et était également célébré comme la journée de l'armée de l'air. Puis célébré comme l'anniversaire de la force aérienne, même une fois célébré comme la journée de l'aviation nationale, et après il est célébré comme la journée de l'armée de l'air de la République d'Indonésie. Le 9 avril 2010, le président Abdurrahman Wahid a permis la célébration de Nouvel An chinois en Indonésie au cours du gouvernement Nouvel Ordre de 1968. Jusqu'en 1999, les Chinois ont été interdits de célébrer le Nouvel An chinois en public. Il est basé sur l'instruction présidentielle numéro 14 l'année 1967, publiée par le président Suharto, qui interdit toutes les choses chinoises, y compris le Nouvel An lunaire. Mais le président Abdurrahman Wahid a officiellement publié le décret présidentiel numéro 19 l'année 2010, du 9 avril 2010 qui a inauguré le Nouvel An chinois en tant que fête facultative appliquée uniquement à ceux qui célébraient. En 2003, la présidente Megawati Sukarnoputri a été proclamée Imlek ou le Nouvel An chinois, l'un des jours fériés. Le 9 avril 2009, les élections générales des membres du Parlement, du Conseil des représentants régionaux et du Parlement régional d'Indonésie. Les élections générales des membres du Parlement, du Conseil des représentants régionaux et du Parlement régional d'Indonésie de 2009, soit l'élection législative 2009, a été tenue pour élire 560 membres du Parlement, 132 membres du Conseil des représentants régionaux et membres du Parlement régional au niveau provincial et régence en Indonésie pour la période 2009-2014. Le vote s'est déroulé simultanément dans presque toutes les régions de l'Indonésie le 9 avril 2009. L'élection générale des membres du Parlement 2009 a été suivie par 38 partis politiques. C'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Ku tuliskan dengan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu, kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu, dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu, tetap cantik rambut panjangmu meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan hatiku bila musim berganti sampai waktu terhenti.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. J'espère que vous aimez bien la chanson. Alors vous êtes toujours avec nous, The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme de Mon Indonésie. Bonne écoute.
Ces auditeurs du titre du monde entier, le programme Mon Indonésie ce soir, intitulé « Traiter les déchets médicaux des patients COVID-19 infection ». Ces auditeurs, Rod Stinger, l'expert en politique des déchets de l'organisation Healthcare Without Harm, voit une tendance à l'augmentation de l'utilisation des plastiques jetables à un moment où de nombreux pays dans le monde sont confrontés à une épidémie de COVID-19. Les déchets médicaux provenant des patients COVID-19 doivent être traités avec soin en triant les déchets, les ordures à la source Ainsi, qu'en les traitant avec des autoclaves ou des récipients à haute pression plus respectueux de l'environnement. Comme l'a déclaré Rod Stinger vendredi dans une discussion en ligne organisée par une organisation à but non lucratif engagée à promouvoir les processus médicaux respectueux de l'environnement. Stinger a déclaré qu'il était préférable d'éviter l'utilisation excessive de plastique dans les pratiques de traitement des déchets médicaux. Il n'est pas nécessaire d'utiliser deux sacs en plastique pour emballer les déchets, mais il est préférable d'utiliser des conteneurs avec un matériau épais et bien fermé pour éviter les fuites. Elle a dit que son organisation avait parlé avec des personnes impliquées dans la question des déchets pendant l'épidémie de SARS, Ebola, de grippe porcine, etc. Disent qu'il n'est pas nécessaire de réagir de manière excessive. La bonne action aidera à guérir les déchets. Rostinger a également suggéré d'éviter l'utilisation excessive d'incinérateurs qui ne sont pas respectueux de l'environnement car ils peuvent produire des polluants dans l'air. Selon lui, c'est l'un des moyens de traiter les déchets qui contribuent à la pollution et qui est le plus cher. Le processus d'incinération ou la combustion des déchets inappropriés des matériaux de santé produira des polluants dans l'air. La combustion des matériaux contenant des métaux lourds peut également provoquer la propagation des métaux toxiques dans l'environnement. Une solution plus respectueuse de l'environnement étant une technologie à base de vapeur telle qu'un autoclave ou un bac à haute pression qui utilise un système de stérilisation pour éliminer les propriétés infectieuses des déchets avant d'être mis dans des conteneurs pour être stocké et traité dans le stockage des déchets dangereux et toxiques ou B3. C'était mon Indonésie ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Bye.
Blitar, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3.25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Serge Littard, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé La fête traditionnelle de Kato Boko. Le gouvernement de la régence de Maros dans la province de Sulawesi du Sud, par l'intermédiaire du département de la culture et du tourisme, est prête à intégrer l'objet touristique et la culture pour soutenir le programme gouvernemental Merveilleuse d'Indonésie. Et jusqu'à présent, nous sommes plus concentrés sur les attractions touristiques naturelles. Mais maintenant, des objets de tourisme culturel sont également développés pour se soutenir mutuellement. L'un des tourismes culturels qui survit encore et qui est maintenu pendant des générations est la fête traditionnelle de la récolte Kato Boko. Elle est encore préservée par l'acteur coutumier du royaume de Marusu, M. Abdul Waris Karaing Sioja, avec la communauté locale. Kato Boko est la fête culturelle réalisée une fois par an. Un symbole du début de la récolte et également montre une solidarité entre la noblesse et la communauté. En outre, cette activité traditionnelle vise également à résoudre les obstacles étant rencontrés par les agriculteurs, tels que les attaques de parasites, les sécheresses et les inondations. La fête traditionnelle de Kato Boko a lieu au palais Bala Lompoa Karaing Marusu, la régence de Maros, dirigée par le chef coutumier de Karaing Marusu. Cette année, elle a été tenue pendant 2 jours, du 2 au 3 avril 2019. Depuis le matin, les habitants de Maros, notamment à Kasikebo, dans le sous-district de Maros Baru, se sont réunis à la maison traditionnelle de Bala Lompoa, Kekarangan Marusu. Les nobles du royaume Marusu portant des vêtements traditionnels Bugis Makassar et la communauté se sont dirigés vers les rizières coutumières appelées Toranu. Ils récoltent ensemble et ensuite les résultats de cette récolte ont été portés à la maison traditionnelle de Bala Lompoa Kekarangan Marusu. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, intitulée La fête traditionnelle de Kato Boko. Merci à tous et à bientôt.
Turun mengingatkanku pada pada dirimu, aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde avec l'Indonésie en couleur en formant sur le festival Balenagi. Le 6 avril 2019, Antonius Gege Hajon, régent de Flores Est, a ouvert le festival Balenagi, ou abrégé en FBN, sur la plage Oa, village de la plage Oa, district Wulanggitang, Nusa Tenggara de l'Est. Selon Antonius Gege, le FBN 2019 avait pour but de soutenir le potentiel touristique religieux déjà connu par les touristes, à savoir la procession du Vendredi Saint ou la Semana Santa. De nombreux touristes viennent à la Rantuka pour assister à la procession du Vendredi Saint. À cause de cela, le festival Balenagi a été organisé afin que les touristes puissent ajouter à leur séjour à la Larantuka en observant les attractions artistiques et culturelles et en visitant le potentiel du tourisme naturel à Flores de l'Est. En outre, le festival sert également à inviter les habitants de Flores Est qui vivent en dehors de l'île à revenir, car le nom du festival signifie « rentrer chez eux ». Le festival Balenagi a lieu en avril. L'ouverture aura lieu le 6 avril à la plage Oa, ou Langitan, et se terminera au village Lamawohon, sur l'heure de l'Ouest, le 26 avril 2019. Ce festival Balenagi évoque toutes les choses, la nature, la culture et la religion, notamment la Semana Santa. Diverses activités seront organisées lors de ce festival, telles que des activités de football, de folie de plage et de surf. Une activité très intéressante dans ce festival était l'activité de tissage Lama Holot, à laquelle assistent environ 1500 participants de toutes les régions de Flores de l'Est. Le festival de tissage Lama Holot aura lieu le 23 avril à partir de 15h jusqu'au soir. Le même jour, il y aura également des attractions de tissage, des expositions de tissage, des expositions culinaires telles que le miel Leworok, le café Leworok, le café Hokkien et divers types d'aliments locaux. Les visiteurs peuvent déguster une variété de plats locaux. On va aussi lancer une exposition nationale sur l'enseignement et la formation professionnelle suivie par des universités et des établissements d'enseignement professionnel à Java, Bali, Makassar, Jakarta et Nusa Tenggara de l'Est dans le parc municipal Félix Fernandez Larantuka du 23 au 24 avril. Une vingtaine d'universités et d'institutions professionnelles participeront à cette exposition sur l'éducation et la formation professionnelle au niveau national. Afin de faire face à l'explosion de visiteurs, le gouvernement local a préparé des logements en guise de lieux de séjour, compte tenu du nombre limité de chambres d'hôtel à Larantuka, qui ne sont qu'environ 500 chambres. Voilà l'Indonésie en couleur.
Terpikat pada inspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Katanya cinta memang banyak bentuknya, dan ku tahu pasti sungguh aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, tak kagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tak membawa ku terinspirasi hatimu. Memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu? Tapi bolehkah ku selalu di dekatmu?
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur la chanson de la belle chanteuse Nike Ardila intitulée In Lumière. Elle est célébrée au début des années 90. La chanteuse, dont le vrai nom est Nike Ratnadila, a commencé sa carrière en participant à divers festivals de chants dans son lieu de naissance, Bandung. De divers festivals, elle a rencontré un producteur célèbre, Dedi Dores, qui voyait son talent et son potentiel en tant que chanteuse. Les chansons créées par Dedi Dores dans le premier album de Nike intitulé In Lumière sont bien reçues par la communauté. Cela est prouvé par les ventes d'albums à 500 000 exemplaires à cette époque. L'album, sorti en 1989, a une chanson principale avec le même titre que le titre de l'album, à savoir In Lumière. Cette chanson créée par Dedi Dores est un genre de rock lente qui s'accorde bien avec la voix de Nike Ardila. La chanson intitulée Une Lumière est devenue populaire à l'époque et a fait de la couleur d'une musique similaire à être une tendance qui a duré plusieurs années. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici donc Nike Ardila avec sa chanson intitulée Une Lumière. Bonne écoute et à bientôt!
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu
Chers auditeurs et auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et la suite d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.